Bonjour Monseigneur Brouvet.
Bonjour Anne-Rose.
Nous voici au cœur de la Semaine Sainte. Ce jeudi 1er avril, nous allons rentrer dans le Triduum Pascal. On va essayer avec vous de décortiquer un petit peu le sens de ces jours saints. La première question, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que ce Triduum Pascal? À quoi il nous invite?
Alors Triduum, on se doute que c'est un mot latin qui veut dire trois. Donc voilà, ce sont ces trois jours, jeudi, vendredi, samedi, avec la vigile pascale et puis le jour de Pâques. Et donc nous entrons dans ces trois jours où nous méditons sur le mystère pascal. Alors il faut se souvenir quand même qu'on est entré dans la Semaine Sainte avec les rameaux, la fête de la Passion du Seigneur. Et puis ensuite on a eu mardi. La messe chrismale, parce que c'est un jour très important aussi dans la Semaine Sainte, puisque c'est un jour où peut-être que certains de vos auditeurs l'ont suivi mardi dernier, où les prêtres renouvellent les promesses de leur ordination, et puis où l'évêque bénit les huiles des catéchumènes et les huiles des malades et consacre le Saint-Crème qui va servir pour, en particulier pour les baptêmes, la confirmation, les ordinations. Et puis aussi les consécrations, quand il y a des consécrations d'autel, c'est cette huile qui sert. Voilà. C'est un grand moment parce que c'est un moment où on se retrouve entre prêtres et diacres. Donc tout le presbytérium est à la cathédrale. Et ça, c'est un petit peu comme un moment qui nous rassemble avant justement la célébration du Triduum, comme pour redire notre désir à nous les prêtres, à nous les diacres, à l'évêque aussi, d'entrer, pas seulement liturgiquement, mais entrer de cœur dans ce que nous allons célébrer aujourd'hui jeudi, demain vendredi, et puis pendant la vigile pascale et le jour de Pâques.
Alors justement, on va essayer de décortiquer un petit peu chacun de ces jours du Triduum Pascal. Ce jeudi saint, le jeudi saint, on dit que c'est la fête des prêtres. Pourquoi dit-on cela?
Alors parce que tout simplement, au moment où Jésus institue l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il dit juste avant de mourir, ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. Eh bien, il dit aussi « faites ceci en mémoire de moi ». Ça veut dire qu'il institue aussi le sacerdoce. Donc les apôtres sont envoyés pour que ce qu'a fait Jésus, eh bien, les apôtres, et puis ensuite les évêques, les prêtres après eux, et cela depuis 2000 ans, nous puissions refaire ces gestes de Jésus. C'est-à-dire donner le corps et le sang du Seigneur aux fidèles, à toute l'Église, faire mémoire de cet instant où Jésus se livre tout entier. Et ce n'est pas une mémoire simplement, comment dirais-je, d'un événement passé, mais c'est la mémoire d'un événement qui est encore présent parce que le Seigneur ne cesse de se donner.
Du sacrifice renouvelé.
Dans son corps et dans son sang, il ne cesse de se donner à nous. C'est vraiment la présence de Jésus qui s'offre. Et donc, les prêtres sont là comme ministres, pauvres ministres, de ce sacrement extraordinaire qui est la présence réelle de Jésus dans son Église.
Au fond, le jeudi saint, ce n'est pas un jour triste. Alors souvent, enfin, on pense vraiment le Triduum Pascal, on le vit avec humilité, avec une certaine tristesse aussi quelque part. Mais ce jeudi saint, en fait, c'est un jour de fête.
Oui, alors je comprends, il y a la tristesse autour du vendredi, quoi, mais le vendredi n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas le jeudi.
Oui.
Parce que le jeudi, Jésus montre en fait qu'il s'offre, sa vie n'est pas seulement prise, mais elle est offerte. Et donc ça, c'est vraiment la grande joie du jeudi, c'est-à-dire que le Seigneur va vers sa passion d'un cœur totalement libre, il s'offre à son Père, il s'offre pour le salut du monde, et voilà, et nous c'est ce que nous fêtons. D'ailleurs, nous sommes en blanc pendant la liturgie du jeudi, et donc c'est un jour vraiment de fête. On chante le gloire à Dieu aussi, on accueille ce moment eucharistique. Ce qui est beau aussi le jeudi saint, c'est que après il y a cette longue veillée devant le Saint-Sacrement, parce que notre foi, nous les catholiques, c'est de croire que Jésus est réellement présent dans le sacrement et durablement. C'est-à-dire qu'il reste présent et que nous pouvons, du coup, dans la suite de la messe, nous pouvons l'adorer. Et donc, on a cette tradition dans nos églises, dans nos paroisses, de faire le reposoir. C'est-à-dire un lieu qu'on a décoré avec des fleurs et où on va mettre le Seigneur et où les fidèles veillent, un petit peu comme à Gethsémani, où Jésus dit « Vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. » Eh bien, nous allons justement nous efforcer de rester présents avec le Seigneur. Alors, c'est souvent jusqu'à minuit. Parfois, c'est toute la nuit. À la communauté de la cathédrale à Tarbes, par exemple, c'est l'adoration est toute la nuit. Donc, il se relaie. Voilà. Et donc, là, on est vraiment dans la joie de la présence de Jésus.
Et puis, ce silence dans l'attente de ce qui va suivre. Voilà. Enfin, le Jeudi Saint, on a aussi en tête les cloches qui retentissent et puis qui se taisent assez brutalement. C'est ça aussi, ce silence assez brutal, assez soudain, dans lequel il faut accepter de se plonger.
Oui, alors ça, c'est le silence du vendredi. Je crois que le jeudi, on est encore dans cette joie. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, alors il m'arrive très souvent, quand une fois que j'ai célébré le Jeudi Saint dans le diocèse, c'est d'aller dans une paroisse un peu incognito et puis adorer le Seigneur dans un reposoir. Et donc, c'est toujours plein de fleurs. C'est toujours très touchant, cette décoration qui a été faite en l'honneur du Seigneur, en l'honneur du Seigneur présent, du Seigneur Eucharistie. Et je trouve que c'est toujours extrêmement beau, cette paix. Alors, c'est vrai, il y a un silence, mais là, c'est le silence de l'adoration. C'est le vendredi et puis surtout le samedi, c'est un silence. Il y a un certain vide parce que on célèbre le Seigneur qui est mort, et du coup. Mais là, vous voyez, le silence du Jeudi Saint, il a une autre tonalité. C'est un silence d'adoration.
Alors, parlons du Vendredi Saint à présent. Alors,
avant de parler avant de parler du Vendredi Saint, il faut aussi s'arrêter, je crois, quelques instants sur le lavement des pieds, la célébration du lavement des pieds, si vous êtes d'accord.
Je suis tout à fait d'accord, oui.
Parce qu'au cœur de cette messe où le Seigneur institue l'Eucharistie, le mémorial, mémorial de sa présence, eh bien, il y a le lavement des pieds. Alors, le lavement des pieds, c'est un très beau geste parce que le Seigneur, il se livre dans sa passion, mais il montre combien, au fond, cet acte qu'il va poser le vendredi, eh bien, c'est vraiment un service de l'humanité. C'est un service. Il se met au service de toute l'humanité. On ne peut comprendre la croix que si on regarde le Jeudi Saint, comme je disais tout à l'heure. Il est livré, mais il s'est mis aussi à genoux devant ses apôtres et devant toute l'humanité pour dire moi je suis serviteur. Et ce service, le premier service, c'est le service du salut. Alors, Pierre résiste, il dit non, tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. Il s'avance, il a un tempérament un peu fougueux, peut-être qu'il a un tempérament un peu bigourdant.
C'est vous qui le dites.
On se souvient de Bernadette, Sainte Bernadette, qui avait toujours son premier mouvement, qui est toujours un mouvement qui venait du plus profond d'elle-même, et puis elle se disait parfois, mon premier mouvement, il est trop vif, il faut s'attacher au deuxième mouvement. En tout cas, Pierre dit pas question, et Jésus lui fait comprendre que en fait, il faut qu'il entre dans ce, il faut qu'il accepte ce service de Jésus. Ça, c'est une question très importante parce que c'est la question du salut. Est-ce que nous acceptons le salut qui vient de Jésus ou bien est-ce que nous voulons nous sauver par nous-mêmes? Alors c'est ça la grande question de la sécularisation, c'est que nous ne voulons plus du salut qui vient de Jésus. Nous voulons le salut par la technique, le salut par le confort, le salut par la consommation, le salut par la tranquillité. Et nous confessons justement ce jeudi que le salut ne vient que de Jésus. Alors il y a cette humilité de Jésus, mais qui appelle l'humilité de Pierre aussi, qui dit « mais moi je ne peux pas me sauver, Jésus vient me sauver ». Et donc, il réalise cela, il dit, bon, alors pas seulement les pieds, mais aussi la tête, ça veut dire,
Il accepte complètement.
Il accepte complètement, il veut être sauvé tout entier. Et ça, c'est un acte profondément, je pense, chez l'évangéliste, vous voyez, il y a un rappel du baptême, en fait. C'est un baptême de la liturgie baptismale, c'est-à-dire on est complètement plongé dans l'eau, c'est ce qui va se passer pendant la vigile pascale avec les catéchumènes. On a besoin d'être sauvé tout entier et Jésus est le seul sauveur. Voilà, alors il y a donc cet acte de foi qui est fait au cœur de la liturgie du Jeudi Saint où pendant que nous voyons que Jésus lave les pieds Il faut nous dire, mais Seigneur, viens aussi, viens me purifier tout entier, viens me sauver. J'ai besoin de toi et je ne trouverai pas mon salut ailleurs qu'en toi.
Au fond, c'est là aussi que toute cette liturgie du Jeudi Saint, elle est vraiment indéniable du Vendredi Saint. Enfin, il faut la vivre pleinement pour pouvoir comprendre et se plonger dans l'office du Vendredi Saint.
Oui, je crois que ça, c'est très important parce que, Anne-Rose, il faut que je vous confesse une chose, c'est que moi, avant d'entrer au séminaire, j'ai jamais assisté aux offices. Dans ma famille, on allait à la messe de Pâques, point barre. J'ai découvert l'office du Jeudi Saint et l'office du Vendredi Saint et la Vigile Pascale au séminaire. Et il m'a semblé très important, parce que parfois, les gens se disent, il faut aller au Vendredi Saint, il faut faire le chemin de croix. On fréquente pratiquement plus le chemin de croix que l'office des ténèbres, si je puis dire. Mais en fait, on ne peut entrer dans le Vendredi Saint que si on est allé au Jeudi Saint. Il y a ce préalable pour comprendre, parce que sinon, comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'est que ténèbres, ça n'est que nuit, ça n'est qu'angoisse, ça n'est que tristesse. Jésus qui est juste crucifié. Mais il faut reprendre ce beau passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 10. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Je la dépose de moi-même, comme dit la traduction de la Bible de Jérusalem. Je la dépose de moi-même, c'est-à-dire que Jésus remet sa vie pour le salut du monde. Et ça, on le comprend surtout le Jeudi Saint. Et donc, ça veut dire qu'on va entrer dans le Vendredi Saint, quand on a vécu le Jeudi Saint, dans cette espérance. Mmh. Et le sens nous est donné là.
Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter, entre guillemets, d'aller au chemin de croix. Mais il y a l'office aussi, l'office de la Passion, donc, qui n'est pas une Eucharistie. Hein, mais cet office qui nous parle, qui nous explique, qui est une catéchèse, en fait, de ce qui est en train de se passer.
Oui, alors ça, c'est un très, très bel office. Moi, il m'a beaucoup, beaucoup marqué, hein, cet office du Vendredi Saint. D'ailleurs, je l'ai vécu comme séminariste, mais il me touche depuis que je suis prêtre beaucoup parce que, comme vous le dites, alors on communie, mais on ne célèbre pas l'Eucharistie. Donc, on communie sur la réserve eucharistique qui a été consacrée le jeudi. Le Vendredi Saint, l'essentiel, c'est la lecture de la Passion selon saint Jean. On lit la Passion selon saint Jean. Le jour des rameaux, on lit la Passion selon l'Évangile de l'année, hein, puisque les auditeurs savent qu'on a trois années qui se répètent,
mais
une année Matthieu, une année Marc, une année Luc. Mm. Et donc là, on est cette année dans l'année B, l'année Marc. Et donc, au rameau, on a lu l'évangile de Marc. Mais là, le Vendredi Saint, on lit l'évangile de Jean. Donc, cette longue lecture. Qui est précédée aussi de ces lectures formidables qui sont des annonces de la Passion de Jésus dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, il y a ce grand moment de la vénération de la croix.
Qui est un appel à la conversion pour chacun de nous, en fait.
Oui, ça veut dire comment est-ce que nous nous mettons devant la croix, chacun d'entre nous. Et cette vénération, c'est là où je trouve que c'est le plus touchant, parce que chacun trouve son geste. Il y a celui qui simplement vénère, il y a celui qui vient embrasser la croix, il y a celui qui vient la toucher. Et parfois, la manière de la toucher, il y a ceux qui touchent les pieds, il y a ceux qui touchent le cœur de Jésus. Et je trouve ça très, très beau, parce que là, il y a une sorte de liberté qui est donnée à chacun. Et du coup, les gestes que chacun fait, il les a choisis. Mm-hmm. Et c'est beau de voir des enfants, de voir des ados, de voir des pères et des mères de famille, de voir des gens qui sont là et qui font ce geste devant la croix en disant « oui ». Notre croix est notre seule espérance. La croix est notre seule espérance. C'est par sa mort que Jésus nous sauve, sa mort et sa résurrection. Mais cette mort de Jésus où il a tout donné, hein, portant nos péchés, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est que Jésus porte tous les péchés du monde, il les porte sur lui-même, il les porte dans le mystère de sa passion. Et nous faisons cet acte de vénération à la fois en action de grâce, à la fois conscient que Jésus porte nos péchés personnels aussi et qu'il a donné sa vie pour nous.
C'est un acte d'espérance aussi. Cet office, il est vraiment acte d'espérance.
Oui, c'est ce que dit l'hymne, hein, Ave au crux spes unica, salut aux croix, notre unique espérance, parce que nous savons très bien que C'est par la croix que nous avons la vie. Alors il y a toute la thématique hein, de cet arbre de la croix. Hein. Cet arbre devient un arbre de vie. Je renvoie les auditeurs à l'arbre, à la croix de Saint Clément à Rome, hein, qui est vraiment une croix avec le Seigneur crucifié, avec Marie et Jean. Mais il y a tout un... en fait, c'est un arbre où pousse hein, une vigne, en fait, une vigne où le monde entier... et cette vigne, elle vient du pied de la croix. Au pied de la croix, bien coule le sang et l'eau, hein, qui sont régénérateurs et qui vont donner vie au monde, hein, qui vont nous donner la vie. Et donc, ça n'est pas triste de voir la croix. C'est comme si nous voyons là le signe de la vie qui nous est donnée. Malgré notre péché, malgré nos misères, malgré la nuit du monde, nous voyons bien que nous sommes dans la nuit, mais nous savons bien que cette nuit n'a pas le dernier mot.
Alors, il y a une tradition aussi, c'est le chemin de croix qui est prié, alors dans toutes les paroisses, et puis aussi beaucoup, on voit en Bigorre, dans les villages, deux, trois personnes qui se rassemblent dans l'église pour prier, pour suivre le chemin de croix ensemble. Ça, c'est une tradition qui est très forte aussi, et c'est aussi une catéchèse qu'on peut faire en famille, enfin pour les enfants, c'est aussi un moyen de transmettre cette histoire.
Oui, c'est une belle manière en fait de se préparer à l'office de la croix, à l'office de la passion le soir. C'est c'est une pieuse tradition hein, chrétienne parce que toutes les stations du chemin de la croix ne sont pas dans l'évangile. Regardez par exemple Véronique ou bien les chutes de Jésus. Bon, mais peu importe, c'est une manière spirituelle d'être avec Jésus sur le chemin de la passion. Et je trouve... alors moi, j'aime beaucoup faire le chemin de croix sur l'île Lourdes dans la montagne, là, qui est très, très... qui est figuratif, hein, et puis qui montre très bien à travers les expressions des personnages ce qui est en train de se passer. Et moi, je trouve extrêmement touchant, par exemple, y a une station où... Les premières stations, elles sont très dures parce que Jésus est seul, il est là avec les soldats et puis il y a des gens qui hurlent. Enfin, il est vraiment condamné. Et puis ensuite, Marie arrive. Il y a cette rencontre de Marie. Et puis, lorsque Marie est là, ensuite, avec les stations suivantes, il y a Simon de Cyrène, il y a Véronique. C'est-à-dire qu'avec Marie, c'est l'Église qui est là présente et qui va prendre compassion de Jésus, qui va pleurer avec lui. Mais qui va aussi l'aider à prendre sa croix, qui va aussi lui éponger la figure, parce qu'il y coule de la sueur et du sang, hein, c'est Véronique. Et c'est vraiment l'appel de l'Église à être là, avec Jésus, mais avec aussi tous ceux qui souffrent, tous les pauvres de la terre, tous ceux qui revivent la passion avec le Seigneur. Et c'est un appel, un formidable appel de l'Église à ne pas détourner la tête de la souffrance humaine, mais d'être là et apporter la croix avec le Seigneur. Au fond, Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus, mais on comprend très bien qu'au fond, c'est l'inverse qui se passe, c'est que Jésus vient porter notre misère, notre croix. Hein, il y a une sorte d'échange qui se fait là et qui nous fait entrer justement à la fois dans le mystère de Jésus au calvaire et à la fois dans le mystère de l'Église qui contemple Jésus.
Alors, le samedi saint, à présent, alors le samedi saint, il faut nous expliquer, Monseigneur Bouvet, qu'est-ce qui se passe le samedi saint ? On est dans l'attente, là aussi, évidemment, dans l'espérance, mais au fond, comment vivre le samedi saint ?
Eh bien, le propre du samedi saint, c'est qu'il ne se passe rien, justement. Et pourquoi il ne se passe rien ? Parce que nous célébrons la mort de Jésus. Il est vraiment mort. Donc, il est descendu dans la mort, il n'a pas fait semblant. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les premiers siècles de l'Église, hein, il y a eu la remise en cause de la mort de Jésus. On ne pouvait pas admettre que Dieu ait souffert, que Dieu ait connu la mort. Et donc, il y a eu des courants de pensée en disant « mais non, ce n'est pas possible, il a disparu avant de mourir, quoi. Il est retourné au ciel avant de mourir parce que... Ça, c'est pas possible. Eh bien non, nous croyons vraiment que Jésus est allé au bout du mystère de l'incarnation. Il s'est fait homme parmi les hommes. Et donc, il est descendu aussi dans ce qui fait notre humanité, dans son plus grand abîme, hein, dans sa plus grande angoisse, c'est le mystère de la mort. Et donc, il y a un moment où Jésus meurt. Il rendit l'esprit, alors c'est ce que nous disons. Et c'est pour ça que, d'ailleurs que liturgiquement, tout disparaît dans l'Église après l'office de la Passion, c'est-à-dire qu'on retire, on couvre les statues, on retire les cierges, on retire les nappes, on retire les fleurs, il n'y a plus rien. Le tabernacle est vide aussi, hein, la Sainte Réserve, quand il y en a une, eh bien, elle est mise dans la sacristie. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'un fidèle rentre dans l'Église, il n'y a plus rien. Le crucifié recouvert, c'est comme si l'Église était pratiquement désaffectée.
On est plongé dans le tombeau avec
voilà,
le Christ,
en fait. Plongé dans le tombeau. Donc le tabernacle est ouvert, hein, parce qu'il n'y a plus de la réserve, il n'y a plus de cierge qui brûle, on ne met pas de cierge, il n'y a pas de cloche, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis alors, il n'y a pas d'office. Voilà, il n'y a pas d'office. Parfois, il y a... Parce que c'est une tradition aussi, une tradition qui a en Orient et qui a parfois été prise de célébrer un office de au fond de Jésus mort, quoi. Hein. Mais ou bien de les sœurs de Bethléem font ça aussi, hein, à Saint-Pé-de-Bigorre. C'est un office, mais où nous sommes là devant le Seigneur qui est mort. Ça n'est pas du tout pour évidemment pour se réjouir de la mort, ni pour sacraliser la mort, ni quoi que ce soit. C'est simplement prendre conscience que le Seigneur est vraiment mort pour nous, et que lorsque nous sommes nous-mêmes confrontés à la mort, nous savons que le Seigneur y est descendu. Il vient justement nous chercher dans toutes nos morts.
Cette année, nous ne pourrons pas vivre la veillée pascale, les vigiles pascales comme on avait l'habitude, comme on a l'habitude, comme on retrouvera l'habitude dans la nuit du samedi au dimanche. Vous proposez, Monseigneur Brouvet, qu'on puisse vivre chez soi une liturgie domestique pour quand même célébrer dans la nuit cette résurrection du Christ, ce passage des ténèbres à la lumière. Quelle est votre proposition? Quel est votre guide un petit peu? Qu'est-ce que vous nous proposez pour qu'on puisse eh bien, chacun chez soi, en famille, vivre quand même cette nuit pascale?
Alors, c'est sûr que liturgiquement, nous fêtons en général, quand il n'y a pas de couvre-feu, quand il n'y a pas de confinement, nous fêtons en général la vigile pascale à la nuit tombée. Il faut dire que c'est le pape Pie XII, donc c'est assez récent. Hein. C'est dans les années 50 que, je ne me rappelle plus la date exacte, mais c'est à ce moment-là que Pie XII a proposé de recélébrer la vigile pascale telle qu'elle était vécue, disons, dans les premiers siècles de l'Église, qui avait été abandonnée. Alors moi, je n'en connais pas les raisons, et du coup, on célébrait une sorte de vigile le samedi matin dans les paroisses, mais il y avait très peu de monde. C'était surtout la messe de Pâques qui était célébrée. Donc là, on bénissait l'eau. Mais donc le pape Pie XII a proposé qu'on retrouve le trésor liturgique de la vigile pascale qu'on doit célébrer la nuit. La nuit, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la nuit de la mort. Et donc on allume un feu, le feu nouveau. Et à partir de ce feu, on allume le cierge pascal. Et puis alors on entre dans cette grande veillée en proclamant la résurrection. Ça, c'est très beau. Mais la symbolique de la nuit, hein, c'est un petit peu comme à Noël. Hein, c'est qu'on attend la nuit et puis qu'à partir du moment où il fait noir, dans cette nuit, jaillit une lumière. Et il n'y a rien de plus beau. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment un très beau temps, un très beau moment liturgique quand le cierge pascal, cette petite lumière hein, vacillante au-dessus d'un gros cierge, traverse la nef de la cathédrale ou de l'église et que chacun allume son cierge à cette petite flamme, c'est vraiment voilà, un très beau signe de ce qu'est la résurrection et de ce qu'est notre participation à la résurrection. Alors cette année, évidemment, comme il y a le couvre-feu à partir de 19h, on ne peut pas attendre la tombée de la nuit. Donc bon, moi, j'ai laissé les prêtres décider. Au fond, il y a trois solutions hein, dans le diocèse. Il y a ceux qui vont célébrer la vigile, comme je vais le faire d'ailleurs à la cathédrale, dans l'après-midi, à 16h30. Alors, on perd, si vous voulez, l'avantage ou le signe fort qu'est la nuit.
La lumière qui arrive voilà. Dans la nuit, oui.
Mais évidemment, on a quand même beaucoup réfléchi. Et on s'est dit que l'an dernier, on n'avait pas eu la vigile pascale. On l'avait vécue en visio, bon. Et là, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de la vivre quand même en, pas seulement être chez soi, mais se rassembler. Bon.
Et puis il y a les lectures. Enfin,
il y a cette liturgie qui est longue parce que il y a les lectures de l'Ancien Testament qui rappellent le dessein bienveillant de Dieu, hein, le projet de Dieu de nous créer et puis de nous recréer. Hein. Et puis l'évangile de la résurrection qui est proclamé, tous ces alléluia qui sont chantés et dont on est privé depuis le début du carême. Et puis ensuite, évidemment, il y a la liturgie baptismale parce que à la cathédrale, il y aura des baptêmes. Dans un certain nombre d'églises, il y a des baptêmes. Donc on bénit l'eau baptismale. On célèbre les baptêmes quand il y en a. Et quand il n'y en a pas, simplement on bénit l'eau et puis on renouvelle la foi et puis on est aspergé de cette eau baptismale. Et puis ensuite, il y a la liturgie qui continue. Quand il y a les baptêmes, il y a la liturgie des saints aussi. Donc on convoque, si je puis dire, toute l'Église du ciel. Donc c'est vraiment un très, très grand moment. Nous, on a décidé à la cathédrale de ne pas s'en priver. Alors on propose aussi aux fidèles qu'ils aient participer à la vigile pascale l'après-midi ou non, d'avoir, comme vous l'avez dit, une liturgie domestique où on peut se réunir en famille une fois la nuit tombée, on peut allumer les cierges, on peut dire l'une ou l'autre de ces lectures, chanter des chants, proclamer l'évangile de la résurrection.
Oui, parce que là, c'est l'explosion de joie.
C'est l'explosion de joie. Oui. Et donc, ça a du sens aussi en famille. Oui. Peut-être qu'un ado va sortir sa guitare ou bien on va trouver des chants sur des CD ou bien sur YouTube et puis on va les mettre pour chanter avec... On a proposé dans le site diocésain une petite liturgie, mais chacun peut faire comme il veut. En tout cas, il y a quelques chants qui sont proposés, il y a des lectures proposées, on peut les trouver parce qu'il y a des liens sur le site de l'association... francophone de liturgie, donc on peut retrouver tout ça très facilement et puis composer en fonction de la famille, en fonction des désirs de chacun, si on a des petits enfants ou si on a des ados ou si on veut se coucher plus ou moins tard, en fonction de la faim ou de la soif spirituelle. Et puis on peut chanter les chants de louange, on peut donner des intercessions parce qu'on peut prier pour tous ceux qui ont besoin de notre prière. Voilà, et puis on peut finir par le Notre Père, par une oraison, par un temps de fête. On a même mis un petit lien pour trouver des moules à agneaux. Mais enfin, aujourd'hui, jeudi, c'est peut-être un peu tard pour commander sur Internet des moules à agneaux. Mais,
son agneau pascal.
Oui, pour fabriquer un petit agneau en gâteau. Hein.
En gâteau.
Alors, on peut évidemment on peut faire un méchoui avec un agneau, un vrai agneau. Bon, mais enfin, quand on n'a pas le méchoui à faire dans le jardin, on peut faire un gâteau en agneau. Et puis, ou bien on peut faire, vous savez, des petits biscuits avec des formes en agneau, et puis les partager avec un verre de coca, ou bien plus, si affinité, pour fêter Pâques ensemble. Oui.
Et pour fêter Pâques en famille.
Alors, excusez-moi, mais je finis parce que la troisième solution, qui a lieu aussi dans quelques églises, c'est d'avoir la vigile à 6h30. Ou à 7h le dimanche matin. Voilà, parce qu'on peut se lever à 6h, donc on peut aller à l'église. Je sais qu'il y a au moins deux églises, il y en a peut-être d'autres, dans le diocèse, en particulier Saint-Antoine à Tarbes, où les frères franciscains ont décidé de célébrer la vigile à 6h30. Et je trouve ça bien que dans quelques églises... Bon, c'est sûr que les familles auront peut-être du mal à se lever avec les enfants, etc. Mais je trouve bien aussi que...
La proposition existe pour ceux qui le peuvent.
Oui, voilà. Dans les environs de Maubourguet aussi, donc il y a aussi une messe. Mais alors, je ne sais plus le nom du village. C'est une grande église où la messe sera célébrée aussi à 7h.
Mais tout est indiqué sur le site du diocèse, dont on donnera des coordonnées en fin d'émission. Cette veillée de Pâques, ces vigiles pascales, alors que l'on soit dans une église ou qu'on les fasse chez soi en liturgie domestique, n'empêche pas que le dimanche matin, nous allions retrouver la communauté paroissiale pour chanter à nouveau le Christ ressuscité. L'un n'empêche pas l'autre.
Ah bah oui, il faut aller à la messe le dimanche, ça on le sait. Et puis je trouve que la liturgie domestique prépare la messe de Pâques. Donc, il y aura dans les églises, dans les villages, cette messe de Pâques qui sera célébrée. Grande messe, parfois, il y a aussi des baptêmes de petits-enfants qui ont lieu à ce moment-là. Et là aussi, la liturgie est déployée, hein, parce qu'on chante le Gloire à Dieu, on chante des Alléluia, on chante tous ces cantiques, c'est comme une joie retrouvée hein, pour célébrer. Et puis alors, il y a évidemment l'évangile de la résurrection qui est proclamé, avec la séquence de Pâques. La séquence, c'est un morceau liturgique, je ne sais pas, un poème, une hymne liturgique, juste après la deuxième lecture et avant l'Alléluia. Donc c'est un très beau chant qui donne le sens de la célébration.
Et puis il y a toutes ces cloches qui retentissent et qui disent au monde que le Christ est ressuscité et que nous chrétiens nous sommes dans la joie, même à ceux qui ne sont pas dans l'église avec nous, on leur dit que on est dans l'allégresse.
Oui, parce que les évangiles de Pâques ils se terminent par cette proclamation de l'évangile. Au fond, les femmes viennent au tombeau. Hein, je suis très touché que ce soit des femmes. Je trouve ça très très beau parce que les femmes elles n'ont pas déserté, elles étaient là au pied de la croix. Il y avait Saint Jean, mais sinon il y avait Marie et des femmes. Il y a une sorte de courage, quoi, une sorte de fidélité, une sorte de solidité des femmes qui sont là et qui sont là jusqu'à la dernière étincelle de vie. Et ce sont ces femmes aussi qui décident d'aller soit visiter le tombeau, soit embaumer le corps de Jésus. Enfin, ça dépend des évangélistes. Et puis, on le voit chez Saint Marc, hein, eh bien, elles disent on va embaumer, mais qui nous roulera la pierre parce que la pierre du tombeau est fermée. Peu importe, en tout cas, c'est aussi des femmes qui sont là et c'est elles qui constatent les premières, qui sont les premières au courant de la résurrection.
Les premières missionnaires, au fond.
Et du coup, voilà. Alors, vous savez que Marie-Madeleine, on l'appelle l'apôtre des apôtres, mm-hmm. hein, parce que c'est elle qui va être apôtre auprès des apôtres qui, eux, sont enfermés parce qu'ils ont peur. Ce sont les femmes qui viennent dire aux apôtres que le Christ est ressuscité. Mais je trouve ça beau parce que là encore, les femmes, elles n'abandonnent pas Jésus au tombeau. Mmh. Elles viennent encore, elles ont des soins à prodiguer, elles ont à pleurer, elles ont à dire leur tristesse, elles ont un deuil à commencer. Et elles n'hésitent pas. Elles prennent tous les risques. Et donc, elles sont les premières témoins de la résurrection. Alors, les cloches sonnent chez nous pour que nous soyons témoins tout de suite hein, de la résurrection, que nous puissions dire au monde que le Christ est ressuscité, non pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous, que le salut, il englobe toute l'humanité, peu importe la religion, si je puis dire, peu importe le passé, l'histoire de chacun, le Christ est mort pour tous. Et ça, nous y tenons, nous les chrétiens, pour dire non, Jésus aime tout homme, Jésus aime chacun. Et j'aimerais dire aux auditeurs aussi, ceux qui écoutent, même peut-être par hasard comme ça, que le Christ est mort et ressuscité pour vous qui écoutez à la radio, quelle que soit votre histoire, même si vous avez abandonné la foi chrétienne ou votre baptême depuis longtemps, même si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, voilà, le Seigneur vous aime comme il aime chacun d'entre nous parce qu'il est notre Créateur et notre Sauveur. Et donc, c'est cette joie, la joie de la résurrection, la joie du salut, c'est que justement, nous retrouvons la communion perdue entre nous, hein, quelle que soit notre histoire, eh bien, le Seigneur nous remet. Et alors, c'est aussi ça, vous voyez, la joie de la résurrection, c'est qu'au fond, ces femmes vont au tombeau en pensant que l'avenir est là au tombeau, qu'elles vont prodiguer des soins, qu'elles vont pleurer, qu'elles vont être tristes. Et en fait, c'est pas là qu'elles doivent se tenir. Comme si l'ange les envoie, elles tournent le dos au tombeau, comme nous avons chacun à tourner le dos à chacun de nos tombeaux, le tombeau de nos peurs, de nos tristesses, de nos épreuves, de nos souffrances. Nous ne pouvons pas rester, ad vitam aeternam, enfermés dans cette tristesse, même si la douleur a été lourde, même si ce que nous avons vécu est extrêmement difficile à porter. Eh bien, le Seigneur nous propose de ne pas nous laisser enfermer là, hein, mais d'ouvrir les portes, que nous tournions le dos et que nous allions proclamer que nous avons un avenir, que nous avons un futur et que le Seigneur nous ouvre un chemin de vie.
Merci beaucoup, Monseigneur Beauvais. On indique que tous les horaires hein, de la Semaine Sainte, quels que soient les lieux, les ensembles paroissiaux, les villages, les petits et les grands villages, tous les horaires de ce Triduum Pascal sont sur le site du diocèse catholique65.fr, jeudi saint, vendredi saint, les vigiles de samedi, et puis évidemment les célébrations de dimanche matin. Merci beaucoup, Monseigneur Beauvais. On vous souhaite une belle Semaine Sainte, un bon Triduum.
Alors oui, merci. Moi, je souhaite un beau Triduum à tous les auditeurs et puis à leurs proches, à leurs familles, en vous invitant vraiment à nous rejoindre dans les célébrations. Même si ça fait longtemps que vous n'y avez pas été, venez, venez. On sera heureux de vous y accueillir. On sera heureux de fêter ces jours saints avec vous, et en particulier la fête de Pâques. Alors, belle et sainte fête de Pâques à tous.